Gemma Bovary de Posy Simmons.
Adaptation radiophonique, Lily Stein.
Quatrième épisode.
Sauf qui peut.
En lisant mon journal, Joubert a découvert la vérité sur Charlie. Sa lâcheté devant les exigences de son ex-femme, Judy. Mon exaspération croissante vis-à-vis de ses enfants horriblement gâtés et surprotégés. Charlie est un bon père, mais élever les gamins des autres n'est pas chose aisée et je me sens piégée. Le mieux serait peut-être de les perdre dans la forêt.
Mon Dieu, qu'est-ce que tu as dit à Judy?
Que j'étais pas la babysitter et qu'on gardait ce foutu week-end pour nous. Elle m'a fait son speech sur la solidarité féminine. Bon Dieu, et toutes ces jérémiades sur son manque de liberté. Mais si elle voulait être libre, elle avait qu'à pas avoir d'enfant. C'est comme de s'attacher un boulet au pied et se plaindre de pas pouvoir courir.
Mais...
Et puis de quoi elle parle? Elle nous les colle sur le dos sans arrêt.
Je suppose qu'elle pense que comme tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas
courir. Oh, la ferme, Charlie, ça c'est son truc. As-tu dit un peu d'en avoir, Gemma? Traduction, j'espère qu'ils t'en feront baver et ce sera bien fait pour ta gueule. Autant pour la solidarité féminine. Charlie, ça me fait réfléchir. Et je pense, je comprends quelque chose de vraiment important, qui affecterait. Enfin, je veux dire, si nous on avait un bébé, on n'a pas les moyens de déménager, si?
Déménager? Pourquoi on déménagerait?
Mais Charlie, je ne vais pas élever un enfant à Hackney. Ni ailleurs, tant que ta salope d'ex-femme est dans les parages.
Gemma, écoute, ce n'est pas si...
Je veux déménager, Charlie. J'en ai marre de tes gosses qui sont là tout le temps. J'en ai marre que Judy dirige nos vies. J'en ai marre que tu le laisses faire. J'en ai marre, je veux déménager, Charlie.
Gemma, on ne peut pas. Aujourd'hui, des surfaces comme celle-ci se louent une fortune. On ne trouvera jamais aussi bon marché.
Je sais.
Tes revenus sont en chute libre. Moi, j'ai l'hypothèque de Judy. Pour le moment, on n'a pas d'argent. Enfin, j'en ai mis un peu de côté quand on m'a payé en liquide. Mais pas assez. On ne peut pas déménager.
Je sais. Bon Dieu, mais quelle idiote. Avant, j'ai gagné des tonnes de fric. Pourquoi j'ai laissé tomber? Fuck the fuck. Bonjour, la qualité de vie. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est me rendre pauvre.
On peut presque entendre les gémissements sortir du journal. Un lamento de désespoir urbain, de blues bourgeois.
Je me suis réveillée un matin et j'ai vraiment remarqué, comme pour la première fois, l'air, comme de respirer à travers une vieille chaussette. La rue, pleine de gens déjantés, de merde de chiens, de verres de pare-brise cassés, de déchets de fast-food. L'allée, jonchée de seringues, boîtes de soda, capotes et vieux matelas. La nuit, concert de sirènes et d'alarmes, gamins jetant des caddies du haut de la pente, heavy metal en boucle deux portes plus bas, mon perron repeint par des tonnes de vomi comme une carte de l'Australie. Je veux partir, pas dans un an quand j'aurai gagné assez d'argent, immédiatement.
Bien entendu, elle ne peut pas déménager. Elle a rogné ses ailes financières. Elle est prise au piège. Elle vient d'apprendre la différence entre choisir de vivre dans la zone et y être obligée. Et ça lui fait penser au bébé qu'elle aura un jour.
Un enfant maximum. De toute façon, après 30 ans et absolument avant 40 ans. Of course, c'est impensable à Hackney. Mais à peine plus tolérable dans un des quartiers aisés de Londres où on trouve des ghettos de classe moyenne à vomir, avec des variateurs électriques partout, des systèmes d'alarme, et des gosses derrière des barreaux anti-cambriolage. Quant à la campagne anglaise, il n'en reste rien. Rien qu'une gigantesque banlieue encombrée de voitures et de centres paysagers.
Elle se prend à rêver à un endroit loin des embouteillages. Un paysage de hameaux tranquilles où les enfants peuvent courir pieds nus en toute liberté.
Un lieu où culture et style marchent main dans la main. Où vivre est une affaire sérieuse. Où la nourriture n'est pas saturée de produits chimiques. Où l'immobilier se vend comme une bouchée de pain. La France. What else?
Dans la vie, on finit souvent par obtenir ce qu'on demande, parfois d'une manière inattendue. Gemma avait besoin d'argent. C'est alors que son père meurt brutalement d'une crise cardiaque, laissant sa fille seule, totalement déprimée, mais aussi plus riche de 65 000 livres, sans compter un supplément de 5 000 livres mis de côté pour le mariage convenable qu'elle avait refusé. Gemma est allée à Reading et a pleuré avec sa belle-mère. Pendant des mois, elle n'a rien écrit dans son journal. Alors, qui peut dire la profondeur de son chagrin ? À l'entrée suivante, il est évident qu'elle est allée en France à la recherche d'une maison. Elle hésite un moment entre deux possibilités, l'une dans le Pas-de-Calais, l'autre en Normandie.
Pailleville, 31 km de Rouen. Maison normande comprenant cuisine, séjour avec cheminée, à l'étage 3 chambres, salle de bain, WC, chauffage électrique, dépendance à usage d'atelier, terrain 1 hectare 38, prix 87 000 euros. Charlie aura son atelier et moi mon bureau dans la maison à côté de la chambre d'enfant.
Elle choisit la Normandie, achète comptant. Sa contribution est de 55 000 livres. Charlie a apporté le reste. Tout au long de l'affaire, Charlie ne cesse d'avoir des appréhensions. Dès que l'achat est conclu, ses doutes se transforment en panique, en pessimisme noir.
Chaque nuit, je dois le rassurer. Pour lui, je refais le tableau. Je lui dépeins une vie de félicité rustique de l'autre côté de la Manche. Le vin, la gastronomie, les légumes que nous ferons pousser, le travail en commun, les visites des amis, le bébé qu'on pourrait avoir.
Mais on va perdre l'appartement de Londres. Jamais on ne retrouvera un truc pareil.
Mais non, Charlie, écoute, on se loue à Colin. L'agence ne saura rien. Et s'il pose des questions, c'est mon cousin et nous sommes en vacances.
Et on va devoir payer des impôts en France.
Oh, ça tu peux y échapper, c'est facile. Si tu ne fais pas de déclaration, ils ne te connaissent pas. On continuera à être taxé en Angleterre.
En plus, je ne parle pas un mot de français.
Oh, c'est pas grave. Le travail continuera à venir de Londres. Tu trouveras toujours du boulot via ton frère. La route sera juste un peu plus longue pour la livraison, bon, sais-tu?
De toute façon, le van ne tiendra jamais le coup.
Eh bien, on achètera un autre. Un van neuf pour faire de la route. Et on gardera le vieux pour le plaisir. On a les moyens.
Et comment je vais annoncer à Judy que je lui laisse les enfants? Elle va me tuer, carrément m'étriper.
Mais Charlie, elle t'étripe régulièrement, même quand tu passes tes journées à faire tout ce qu'elle te demande. Tu la satisferas jamais. Elle a besoin que tu sois dans ton tort. Alors pourquoi ne pas l'être vraiment pour une fois?
Ouais, du coup, je ne verrai plus mes enfants.
Tu les verras tous les 10 jours. Ils viendront en grandes vacances, ils viendront en Pâques, et tu pourras même leur proposer...
Tu ne comprends pas. C'est parfait pour toi. Mais je ne peux pas partir comme ça. Je ne peux pas la laisser. Je ne peux pas.
Pense à la grange, Charlie. Ça te fait un atelier superbe. Pense au vin, tellement bon marché là-bas. Et aux clopes. La France est géniale pour les fumeurs. Pense au fromage. Pense aux petites épices, aux odeurs dans les marchés.
Judy. Judy. Bon, Gemma et moi, on a pensé que ce serait formidablement bien pour le français de Justin et Delia si on sous-louait Hartwell Street et qu'on achetait une maison en France. C'est juste à l'autre bout du tunnel. Ils n'auront qu'un saut à faire. Non, ça va pas. Plutôt comme ça, plus direct. Judy, nous venons de... Non. Gemma vient plus ou moins d'acheter une petite maison en France et... Ah, Judy. Il faut que je te parle.
Salut, Charlie. Je ne m'attendais pas à te trouver encore là.
Ah oui, je suis restée parce que j'ai quelque chose à t'annoncer.
Ah, je t'écoute, Charlie.
C'est-à-dire... Bon, voilà. Gemma vient d'acheter une maison en France.
Oui.
Et nous partons nous installer en Normandie.
On va sous-louer l'appartement de Hackney à Colin. J'ai acheté un nouveau van et je pourrai continuer à travailler. Je ferai venir les meubles de Londres. Ce sera juste un peu plus long. Mais comme ça, je pourrai continuer à payer mes impôts ici. Et les enfants pourront venir aux grandes vacances, à Pâques, à Noël. Voilà.
Je suis sans voix, Charlie. Je suis tellement furieuse que je ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas les moyens d'augmenter la pension des enfants, mais tu peux t'offrir un nouveau van et une maison de vacances en France. Bon Dieu, je suis censée penser quoi?
Le van est d'occasion et c'est pas une maison de vacances. Je vais y travailler et c'est Gemma qui
a... Oui, c'est son argent. Mais je suis sûre que tu as contribué, n'est-ce pas?
Un peu, oui. J'avais un peu d'argent de côté.
Des économies, Charlie! Comment as-tu fait? Combien as-tu mis de côté exactement?
Que dalle, avec ce que je te file.
Et tu crois que ça te donne le droit d'aller en France? De me laisser élever les gosses toutes seules?
Mais je viendrai souvent, Judy.
Vraiment? Quelle sorte de père es-tu? Et je suis sûre que tu as le culot de penser à fonder une deuxième famille, n'est-ce pas?
Possible. Et si c'est le cas, la France, c'est mieux que l'Est de Londres pour les enfants.
Oh, je n'en doute pas. Tu ne voudrais pas que tes enfants restent enfermés, qu'ils respirent le smog de Londres et qu'ils aillent dans une école de merde, hein?
Pas vraiment, non.
C'est drôle. Ça t'a jamais gêné que les nôtres vivent ça, hein? Hypocrite!
Judy, ils ne vont pas dans une école de
merde. Comment peux-tu leur faire ça? Comment peux-tu abandonner tes enfants? Partir à des milliers de kilomètres? Sortir de leur vie avec cette désinvolture? Comment peux-tu me faire ça? Comment tu justifies ton attitude envers moi et tes enfants? Tu te racontes les choses en te donnant le beau rôle, hein? Très bien. Pars en France. Laisse tomber tes enfants. Laisse tomber tes responsabilités. Mais dis-toi bien que tu le regretteras.
Pardon, tu disais...
Tu m'as parfaitement entendu.
De toutes les maisons à colombages de Normandie, les Bovary ont donc acheté celle qui se trouve au bout de notre chemin. D'abord, tout ce que nous avons su d'eux, c'est qu'ils étaient étrangers. Pas de quoi s'emballer. Anglais, hollandais, allemands, il y en a de plus en plus par ici. Des résidences secondaires. Les meilleurs stimulent l'économie locale, y compris mon commerce, il n'y a donc pas à s'en plaindre. Les pires, souvent les Anglais, arrivent avec leurs coffres pleins de produits de supermarché. Ils restent une semaine ou deux comme des petits milords dans un royal isolement. Ils ne prennent pas la peine d'apprendre le français. Pas surprenant que je n'ai éprouvé aucune excitation jusqu'à l'emménagement de Gemma et Charlie.
Martine !
Oui ?
Écoute, t'es encore là, toi ?
Ouais, pas pour longtemps.
Devine, devinez !
Devine quoi ?
Madame Bovary est notre voisine. Sans blague, ils sont anglais, mais ils s'appellent Bovary. Tu te rends compte? Bovary. C'est incroyable, non?
Oui, et alors?
Mais quand même, Martine, quelle coïncidence, tu ne trouves pas? Qu'Emma Bovary vienne s'installer au fond de notre jardin.
Oh, bof. Moi, je suis pas arrivée à finir le livre. Délaye pas un peu la sauce, ton Flaubert. En plus, elle est nulle comme mère, cette Emma. Bon, allez, salut les vieux. Moi, j'ai un cours, là.
Bah, tu me fais pas un bisou?
Ouais, bisous de loin.
Au revoir, Pascal. Moi, j'ai toujours pensé qu'Emma Bovary était juste une emmerdeuse.
Je vis avec deux béotiens. Comment pouvez-vous avoir si peu d'intérêt pour la littérature, ton fils et toi?
Tu ne crois pas que tu ferais mieux de t'occuper de ta patte, non?
Et puis, elle est tellement belle. Elle doit avoir presque 40 ans.
Qui ça? Madame Bovary?
Mais non, pas elle. Elle a la trentaine plutôt grosse. Non, je parlais de sa voiture. Un vieux combi Volkswagen absolument magnifique, en parfait état. Le mari a un van aussi, un modèle récent, aucun intérêt.
Tu as encore fouiné, hein?
Fouiné, qu'est-ce que tu veux dire?
Oh, épargne-moi ça, Raymond, tu les as espionnés. Je hais ta manie d'espionner les gens.
D'abord, j'espionne pas. Ensuite, j'aimerais un peu de silence, c'est l'heure de mon émission préférée.
Arrête. Tu l'as dit toi-même. Le mieux, quand tu travaillais aux éditions Pelletier, c'était d'épier les amours de bureau.
Les cas de gémellité sont très rares, et son unique éléphanto pèsera déjà une centaine de kilos à la naissance.
Et tu m'agaces avec tes documentaires animaliers. Tu passes ta vie à espérer voir n'importe quoi s'accoupler.
L'hémisda s'espace d'environ 2 ans et demi à 5 ans. Et une éléphante peut être en gestation jusqu'à l'âge de 50 ans. La gestation sera plus longue pour un éléphanteau mâle que pour un éléphanteau femelle.
Je ne sais pas pourquoi, mais parler livre énerve vraiment Martine. Par exemple, quand je discute d'un texte ou du monde de l'édition devant des gens, elle ne manque pas de me rappeler que je n'ai jamais été autre chose qu'un éditeur de livres scolaires à destination de l'Afrique. Je ne veux pas suggérer que Martine et moi ne nous entendons pas. Depuis que nous sommes installés à Bailleville, et bien que le rythme provincial soit un peu lent, je peux dire très franchement que nous ne regrettons ni l'un ni l'autre notre vie à Paris.
Bonjour.
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 Bonjour, monsieur Boulanger.
Bonjour, messieurs, dames.
Bonjour, madame.
C'est à l'occasion de leur visite dans ma boutique de Bailleville que j'ai pu voir Emma et Charles Bovary, en réalité Gemma et Charlie Bovary, de plus près. Ça m'a plu que madame reste un moment en extase, pleine de respect, transportée par une volupté pure à respirer les riches arômes de mon pain chaud.
Qui sent cette odeur absolument divine?
Oui, une odeur de pain.
Mais bon Dieu, il est carrément stupéfiant ce magasin.
Carrément cher, oui, si tu veux mon avis.
Mais arrête Charlie, ça le vaut. T'auras jamais du pain comme ça en Angleterre. Il est si vrai, c'est tellement yummy. T'as envie de tout manger, miam miam. Et t'as vu, 25 sortes de pain différents. Et les Français sont incroyables, je veux dire, ils savent vraiment vivre.
Tenez madame.
Oh.
Goûtez-moi celui-là.
Thank you, merci. Oh, Lord. Ça, c'est du pain. Quel goût.
Elle avait raison.
Un vrai goût.
Je fais du vrai pain, riche en goût et en texture, pas un produit industriel. Et si ma vie ne sert qu'à ça, à perpétuer l'amour du bon pain honnête, j'en serais satisfait. Le pain est une passion chez moi. C'est notre patrimoine. Tenir du pain dans sa main, en caresser la surface, chaque creux, arête, vallée, fissure, crevasse, c'est toucher la terre, la croûte originelle d'où est sortie la vie. C'est immerger ses sens dans la couleur et l'odeur du blé mûr. C'est goûter le soleil, c'est la nature, la santé, la vie. Rien de plus naturel, de plus humble que le pain, rien de plus sensuel. Mais je m'égare. Il était clair que Gemma s'enchantait de tout ce qui faisait sa nouvelle vie en Normandie. On la voyait au marché s'extasier devant les légumes. On l'entendait chanter dans son jardin. C'était le début de l'été. Nichée dans son écrin de verdure, leur petite maison avec son panache de fumée montant de la cheminée ressemblait à la dernière scène d'un conte de fées, la page où les protagonistes vivront heureux et auront beaucoup d'enfants.
Tu verras, ça ne durera pas. De mauvais hivers et ils s'en iront.
Oui, t'as sans doute raison. On a déjà vu ça, ce fantasme bourgeois. Les étrangers, ils s'installent en France, s'enterrent dans leur hectare de boue et ils se demandent pourquoi ils deviennent fous.
Tu n'es vraiment pas en position de te moquer des Bovary. Après tout, tu es toi-même un évadé de la ville. Pas une fois, mais deux.
Oui, mais c'était différent la première fois. J'étais jeune étudiant, j'étais idéaliste. Et je voulais écrire.
Oui, c'est pour ça que tu es parti en deux chevaux, t'enterrer dans cette communauté de Lozère où tu as passé ton temps à faire du fromage de chèvre et à fumer des joints.
Mais j'ai retrouvé le contact avec la nature, avec moi-même, pendant que mon livre grandissait dans ma tête. Et j'ai pu me poser enfin les vraies questions.
C'est ça. Qui suis-je pour prétendre répondre à la question « Qui suis-je ?» par exemple. Et tu es rentré au bout de 8 mois.
Une question de principe. C'était devenu un vrai camp de facho. Toujours à me coller la corvée de chèvre. Et puis il faisait froid. Et j'avais des furoncles.
Et tu n'as jamais écrit ton livre.
C'est là que la poésie a déserté ma vie. J'ai passé 18 ans aux éditions Pelletier, près du boulevard Saint-Germain. J'ai connu Martine Morin, responsable marketing, en Crète. On s'est mariés, on a eu nos 2 enfants. Et puis, il y a 7 ans, Pelletier a été racheté et j'ai été viré. J'ai quitté Paris pour la 2e fois et je suis retourné retrouver mes racines en Normandie avec Martine et les garçons, à Bailleville, où, au bout d'un certain temps et à la surprise générale, j'ai redressé la boulangerie familiale qui dépérissait depuis la mort de mon père. C'était peut-être dans le sang, mais je suis tout bonnement tombé amoureux du pain, de ce pain authentique, bio, qui prend 5 heures à faire. Le genre de pain qui a poussé Gemma Bovary, la première fois que je l'ai vue, à mordre dedans dans la boutique. J'ai trouvé ça assez sexy sur le moment. Elle avait l'air si affamée, si vivante. Mais aujourd'hui, quand je repense à cette image, et j'y repense souvent, elle me fait frissonner. Elle me tient éveillée. Elle brûle mes nuits. Elle me rappelle toute la saloperie qui se préparait.
Bailleville, Normandie, 19 juin. J'ai acheté des tonnes de fèves au marché. La femme m'a demandé si j'allais faire une bonne soupe aux fèves. Bien vu. Bon Dieu, j'adore faire mes courses ici. C'est tellement humain. Les gens prennent leur temps. On sent qu'on fait partie des choses. Je connais pas un coin en Angleterre où on puisse trouver 5 sortes de patates au bout de la rue et tout est frais et pas sous plastique. Les Français sont tellement civilisés, c'est le paradis. Pas de journaux, pas de TV. On a essayé de la brancher pour la première fois ce soir et elle ne marche pas ici. Charlie dit que le signal français est différent ou je ne sais quoi. Tant pis. Bailleville, Normandie, 29 octobre. Vacances du Toussaint des enfants. J'ai dit à Charlie que c'était la dernière fois qu'il venait. Aux prochaines vacances, ils n'auront qu'à rester à Londres et gémir auprès de leur mère. Je sais qu'on s'ennuie ici. La campagne est ennuyeuse. Moi aussi, je m'ennuie. Ras-le-bol des mêmes boutiques, des mêmes visages, de passer ma vie à leur cuisiner des trucs pour les entendre faire Burke. Je suis allée à Rouen et j'ai fait les courses de la semaine au Leclerc. Plus rapide et moins cher. Qui se bourre de frites au micro-ondes à en vomir? Bailleville, Normandie, 5 janvier. Je me suis mise au régime. Presque 70 kilos, je me hais. Il gèle dedans et dehors. Le van ne démarre pas, j'ai dû faire les courses au village. Je suis allée à la pharmacie la plus éloignée, je ne supporte plus celle de la mairie. Quand j'achète mes Tampax, cette sale fouine me regarde, l'air de dire « Pas encore enceinte alors ?» Bonjour l'intimité dans ce trou perdu.
C'était Gemma Bovary de Posy Simmons, adaptation radiophonique de Lili Stein. 4e épisode avec Elodie Hubert, Gemma Bovary, Vincent Schmitt, Raymond Joubert, Laurent Lederer, Charlie Bovary, Léonie Pinjot, Martine Joubert, Rémi Goutalier, Pascal Joubert, Anne Carr, Judy et bien d'autres. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Bruitage, Sophie Bissens. Équipe de réalisation, Cédric Chatelus, Pierre Henry, Manon Dubus, Jean-Mathieu Zande. Traduction, Lili Stein et Jean-Luc Fromental. Gemma Bovary est publiée aux éditions de Noël. À demain.